BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel.
Bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler évidemment de tech, d'IA. Dernière émission de la semaine, puisque demain soir nous serons en rediffusion. Vous savez, on profite, comme beaucoup d'entre vous, je l'espère, de ce week-end de l'Ascension. Au sommaire, nous allons parler de Google. Alors hier, on vous avait annoncé plusieurs annonces de Google, notamment autour d'un Google Book qui serait l'après Chromebook avec une certaine intelligence qui s'appelle Gemini Intelligence. On discutera tout ça avec nos débriefeurs. On reviendra aussi sur le procès Sam Altman se défend, il désingue, c'est le cas de le dire, Elon Musk, justement, dans ce procès. On ira un peu dans les coulisses, comprendre ce qui s'y passe. Et puis, tiens, ne manquez pas, dernière partie d'émission, Laurent Alexandre, une des grandes gueules de la tech, de la biotechnologie, de la médecine, eh bien, il sera là avec son co-auteur Alexandre Tsikopoulos, qui est un jeune, il y a 40 ans d'écart entre les deux. Eh bien, justement, ils ont écrit un livre, Vivre 1000 ans. Donc, on va parler la mort de la mort et on va voir leur regard à tous les deux, comment ils se voient évoluer dans cet univers de technologie et d'intelligence artificielle. Elle a été Tech & Co la quotidienne. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 21h.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et le débrief de la tech avec nos débriefeurs du soir, Didier Sanz, journaliste. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Tout va bien, tu as récupéré ta connexion?
Oui, c'est bon.
C'est bon, on peut démarrer.
On peut
avec
commencer.
Nous également Isabelle Bordry. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Frédéric.
Fondatrice de Retency qui accompagne les entreprises sur les conseils stratégiques et puis évidemment autour de la technologie, puisque il y a quelques années tu dirigeais Yahoo, donc tu connais bien Yahoo France, tu connais bien tous ces sujets bien entendu. Et puis Alain Goudet, bonsoir Alain.
Bonsoir. Frédéric.
Merci d'être avec nous, directeur général adjoint de Neoma Business School. On parlait dans le couloir, pour tout vous dire, de comment les étudiants ressentent un peu cette révolution. Et ça va, il mettrait... Enfin, faut bien les préparer, c'est ça?
C'est important de bien les préparer, oui.
Alors, on va démarrer avec vous. Alors, hier soir, Léa Benaïm, dans son Flash Tech, parce que les nouvelles de Google venaient juste de tomber. Donc, Google qui... on va reparler de SpaceX dans un instant, parce qu'ils ont cette alliance avec SpaceX. Mais là, c'est Google Book. Google qui lance une gamme de PC où l'IA est au premier plan. Ils ont mis du Google... alors, ça s'appelle Gemini Intelligence. Et ils sont en train de préparer l'après Chromebook. Alors, on va voir un peu qui deviennent concurrents. Alors, c'est vrai que le Chromebook Premium n'avait pas très bien marché. Est-ce qu'ils viennent concurrencer l'écosystème des plutôt haut de gamme, des portables plutôt haut de gamme, l'écosystème Mac? Comment il faut faire ça, Didier? Je sais que tu adores cet univers des PC. Comment
oui,
tu vois l'arrivée de ces Google Books?
Alors, j'avais été déjà assez emballé par les premiers Chromebooks parce que je trouvais que le principe était intéressant, c'est-à-dire des ordinateurs ultra légers, ultra simples, qui fonctionnaient essentiellement avec des applications web et dont toutes les données étaient centralisées sur le cloud. Je trouvais ça intéressant. En plus, c'était vraiment très bon marché. Là, ils adoptent une position un peu différente. Ils voient l'étape suivante. Donc, ils appellent ça des Google Books parce que dedans, il va y avoir un nouveau système d'exploitation qui est basé essentiellement sur Android. Donc, il va y avoir forcément des interactions avec les Android qu'on connaît sur les smartphones. L'une des fonctions majeures qu'a présenté Google à cette occasion, c'était la possibilité de cloner le téléphone sur son PC Google Book pour avoir accès à son contenu, afficher les applications, les lancer, un peu ce qu'on peut faire maintenant sur Apple avec le système de réplication, de miroir d'écran, etc. Donc ça c'est bien, mais surtout comme tu le disais, l'argument premier de ces Chromebooks, c'est l'usage massif de l'intelligence artificielle.
Aujourd'hui, ils sont déployés où sur tous les Chromebooks?
C'est beaucoup le monde de l'éducation.
Ouais, c'est ça. C'est beaucoup le monde de l'étudiant, enseignement.
Étudiant, enseignement, un peu dans les bureaux, mais c'est vraiment pour faire de la bureautique. Mm-hmm. C'est pour du montage vidéo, des applications.
C'était notre terminal de l'époque quand on était bien jeune, presque. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà.
Donc maintenant, ils s'appuient sur l'IA pour créer cette nouvelle génération de PC. Alors, j'insiste deux minutes sur le... Tu posais la question, est-ce qu'ils vont venir concurrencer les PC haut de gamme? Je pense pas.
Voire même le Mac Premium.
Ils ont un créneau, il y a une place pour ce type de produit... qui est à côté, je dirais, de macOS et de Windows. Et là, en l'occurrence, pour l'utilisation de l'IA, ça va vraiment apporter quelque chose de d'un peu novateur. Là, on voit les exemples sur les écrans derrière. Ils ont inventé un truc assez marrant qui est le Magic Cursor. En fait, on bouge la souris et quand la souris arrive sur une certaine zone de l'écran, elle propose des actions en relation avec ce qui est affiché à l'écran, géré par l'intelligence artificielle. Par exemple, vous mettez le curseur sur la photo d'une robe, la photo d'une personne à droite, vous secouez et il va proposer de mettre la robe sur la personne.
D'accord.
Ou un meuble dans un coin, ouais. Une photo de l'intérieur de chez moi et hop, le meuble va être à l'intérieur. Donc, l'idée de Google, c'est de faire de cette relation avec l'intelligence artificielle vraiment le cœur de l'usage de cet ordinateur. C'est-à-dire que ça sera pas un truc annexe comme on a aujourd'hui. On pose une question à ChatGPT et on prend le résultat ou on le prend pas, ou on envoie une image sur Google Images ou sur Nano Banana, etc. Maintenant, c'est vraiment au cœur de l'expérience utilisateur.
Parce que moi, je me demande, avec l'intégration d'Android, qui devient un peu l'OS universel, oui. Alors ils en parlent évidemment sur ces nouveaux Google Book. Ils en parlent, alors Samsung Galaxy va sans doute y être, les Pixels, enfin tout ça, on va pouvoir fonctionner tous ensemble. Est-ce que l'enjeu dans tout ça, Isabelle, c'est pas la guerre des systèmes d'exploitation IA, on va dire.
En fait, ce qui est vraiment intéressant, et Google le démontre là une fois de plus, c'est comment l'intelligence artificielle crée un élément totalement différenciant sur le marché, et la capacité de Google, à la différence des OpenAI par exemple, de pouvoir intégrer et distribuer leur outil IA dans un maximum de services de la vie quotidienne des gens. Et donc là, de nouveau, avec ce nouvel écran, c'est-à-dire que déjà, lorsque vous êtes sur votre mail, vous pouvez avoir accédé à des services qui sont nativement intégrés avec de l'IA. Lorsque vous êtes bien évidemment sur le moteur de recherche, vous avez des systèmes déjà préétablis. Alors, moins en France que dans d'autres pays,
oui, après,
mais vous avez
cette
déjà
intégration
des synthèses
IA
qui sont proposées par l'IA. Et là, il rentre dans l'univers de la vie quotidienne avec la création d'un nouveau PC où, comme le disait très bien Didier, l'IA est un nouvel outil totalement intégré dans la vie quotidienne. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il casse ce silo que Apple avait commencé déjà un peu à casser entre votre univers Android, c'est-à-dire votre univers téléphone, qui encore aujourd'hui, pour une majorité de gens, est très différent de l'univers du PC, de son ordinateur. Donc là, en termes d'UX et en termes de service, il casse les silos. Et donc, ces deux avantages...
J'ajoute que cette idée de mélanger l'OS du PC et l'OS du portable, c'était une expérience qu'avait tenté Windows. Tu te rappelles Windows 7 ?
Oui.
Qui était censé être le même système d'exploitation pour les PC et pour les téléphones portables. Ça fait un flop monumental.
Avec les fils, hein.
Oui, c'est
fils,
ça. Ça a fait un flop monumental, mais l'idée était là, et effectivement, elle a été reprise. Des briques, du concept ont été reprises à droite à gauche, notamment sur macOS et maintenant sur Google.
Voilà, mais je pense que c'est moins abouti que ce que va proposer aujourd'hui. C'est-à-dire, Apple est allé moins loin que ce que va proposer, semble-t-il. Alors, on n'a pas encore vu les produits, semble-t-il, Google. Et puis après, il y a une autre démarche stratégique qui est intéressante de la part de Google. Google n'est pas dans le hardware. Et là, ils vont quand même dicter de manière extrêmement
Ils ont le DTPU,
ils commencent petit à petit, mais je suis pas sûre qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Mais là, par contre, ils vont quand même capter une partie de la valeur ajoutée du hardware, parce qu'ils vont dicter à Acer, à Samsung. Alors, il y avait un peu une polémique sur Samsung qui faisait pas partie de la liste de leurs partenaires. Un cahier des charges extrêmement strict, et donc il va obliger en fait les constructeurs de hardware de répondre à une problématique très spécifique, et donc de faire des ordinateurs spécifiques pour eux et pour Aluminium OS, qui est ce fameux navigateur.
Ils l'ont pas dit, mais bon.
Voilà, qui fait ce lien entre votre mobile et votre PC. Donc ils vont clairement prendre une partie de la valeur captée par les constructeurs de hardware sur ce produit. Alors maintenant, leur premier ordinateur, c'est 25 millions de ventes. Donc c'est tout petit sur le marché des ordinateurs. Là, c'est un vrai challenge. Ils veulent le positionner plus premium. L'IA, ça coûte cher, donc ils sont obligés effectivement de le positionner plus premium et plus cher. On va voir si ça marche.
Et puis, petit coup de pied pour Apple, un petit coup de pied quand même de côté, petit croque en jambe pour Apple, puisqu'ils intègrent Gemini Intelligence, voilà, là où Apple encore du mal à mettre son Apple Intelligence dans ses équipements.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, ce que je trouve intéressant dans ce mouvement stratégique, c'est que là où Apple fait du spatial computing, là on pourrait presque dire ils font du cognitive computing, en allant sur le terrain de, finalement, l'IA va être au cœur du dispositif et de la relation humain-machine. Et du coup, ils vont explorer en fait cette démarche d'avoir un outil à la fois très polyvalent, c'est-à-dire la capacité de passer du smartphone à l'ordinateur et de revenir, etc. Mais en plus, avec un relationnel et le rapport humain-machine qui est très particulier, puisque il le dope quand même très fortement à l'IA, avec des interactions assez étonnantes, et qui vont être assez nouvelles. L'autre signal qui est assez intéressant, pour le coup, je pense que Google se renforce, en fait, justement, dans la stratégie autour du hardware. Tu citais les TPU. Je suis pas certain qu'ils vont rester si timides que ça autour des TPU.
Qui sont des composants plutôt dédiés à l'inférence.
Et qui permet justement de l'inférence en local, qui est quand même un point de force de toute la stratégie Apple Silicon, donc de toutes les puces.
D'ailleurs, ils avaient dit qu'ils avaient entraîné, enfin que Google Gemini, les bons résultats qui étaient à l'époque, quand ils l'ont sorti il y a quelques mois, c'était sur du TPU.
Sur leur propre hardware.
Absolument, effectivement, ils investissent les semi-conducteurs, mais ils n'ont pas encore investi sur du hardware grand public.
Ouais.
Mais effectivement, leur clé de différenciation est une des clés de la capacité, de la rapidité de Gemini, c'est clairement ces semi-conducteurs.
Et puis le cloud derrière.
Et la force du côté cloud, data centralisée déjà, et ce qui du coup est aussi possiblement une faiblesse, parce qu'une fois que tu embarques l'IA au cœur de l'interaction humain-machine, et que tu deviens effectivement une espèce de moteur à anticiper le besoin dans le cadre de l'interface de ce que l'utilisateur veut, tu as quand même un vrai sujet qui est la confiance accordée par l'utilisateur sur le traitement non plus de ses données entre guillemets déclaratives, mais de ses données comportementales. Et là, ça devient un sujet quand même un peu...
Ils ont donné une date de disponibilité
Oui, je l'avais noté.
C'est fin d'année, je crois.
Oui, fin d'année.
C'est pour Noël, les ventes de Noël.
Mais c'est intéressant cette idée de Google est actuellement l'opérateur qui a le plus de données utilisateurs en sa possession, raison pour laquelle...
De très très loin.
Voilà, raison pour laquelle son IA est l'une des plus performantes, parce qu'elle est parfaitement entraînée à partir de données très très larges.
Multilingue, enfin voilà.
Là, t'imagines tout ce qu'ils vont récupérer avec ça ? C'est-à-dire qu'ils vont avoir non seulement les usages de l'ordinateur et la manière dont les gens utilisent l'ordinateur, ce qui va servir à faire un apprentissage de leur IA et en plus à optimiser toutes les applications qu'ils vont proposer. C'est une arme absolument incroyable.
On a notre Français qui est très fort là-dedans, Jonathan Cherki, là, comment s'appelle son entreprise ? Content Square. Voilà.
Alors c'est différent. Content Square, c'est de l'analytics sur les sites.
Mais ça suit un peu le
Mais il l'a en silo, c'est-à-dire qu'il n'a pas une vision transversale.
Là, il y a tout.
Là, c'est une vision transversale. Et alors après, il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est la navigation à la voix. Alors, ils en ont parlé,
2026,
en fait. Ils en ont parlé dans les descriptifs, etc. Et ça, j'y crois beaucoup. Alors, Siri avait montré beaucoup de difficultés dans sa mise en place, même si ça s'améliore aujourd'hui. Et là, ils expliquent qu'effectivement, avec la voix, on pourra demander, par exemple, la création d'un widget directement sur cette nouvelle interface.
Oui, parce qu'on n'a pas, parlé de la voix, mais c'est vrai que parler à son ordinateur, déjà maintenant toucher l'écran, c'est vrai qu'on s'y habitue.
Donc avec Apple, on a appris à toucher son écran, ce qui était quand même une révolution en termes du X. Et effectivement, cette interaction à la voix, on l'attend depuis longtemps. Et on va voir ce que Google nous propose avec cette nouvelle.
Ce qui peut marcher, ils ont un des meilleurs modèles multimodal aujourd'hui, ils ont fait les annonces là, je crois que c'était hier ou quelque chose comme ça, où ils disent, clairement, on a une convergence multimodale sur les modèles IA. Et on voit aussi, d'ailleurs, que tous les acteurs finalement de la tech sont en train de réfléchir à l'après smartphone, l'après ordinateur, avec de nouvelles formes finalement d'interaction et où l'IA jouera un rôle majeur.
Et donc là, l'exemple qui était donné, c'est la création de widgets, c'est-à-dire de raccourcis. Pour les gens plus âgés comme moi, directement sur son bureau, où on peut dire, crée-moi un raccourci ou un accès direct de mon bureau pour suivre ma livraison. Et l'agent IA se crée immédiatement avec à la voix. Ouais. Et donc, c'est vraiment des ruptures en termes du X qui sont très
importantes. Ça dans un cadre bureautique. Hein, on est toujours en train de chercher ses fichiers et tout ça. Lui dire, trouve-moi, mais fais-moi un accès direct vers ce répertoire-là.
Est-ce que votre bureau serait mal rangé, monsieur voilà. Frédéric?
Non, mais c'est, j'oublie parfois dans quel répertoire je l'ai mis. Autre sujet, on va rester Google. Alors, c'est de savoir, est-ce que le futur de l'IA sera... dans l'espace.
Pour une fois, le terme de cloud aura au moins une
voilà. Le cloud serait... Alors, Google serait en pourparlers avec SpaceX. Alors, c'est un article du Wall Street Journal, mais enfin, bon, qui est quand même assez documenté. Alors, il faut savoir que Google est un actionnaire minoritaire de SpaceX.
6%.
Oui, oui. Et que si SpaceX entre en bourse et dégageait les 1200, 1300 milliards, ça fera un beau petit pactole pour Google aussi en termes d'action. En tout cas, ils veulent lancer dès 2027 des satellites capables d'héberger de la puissance de calcul pour l'IA. Alors, c'est contourner les limites énergétiques. Enfin, il y a pas mal de choses. Pourquoi pas en cyber aussi. Le cloud spatial, faut y croire. Alain, je démarre avec toi.
Alors, oui, enfin, je crois qu'on est dans une période où, en tout cas, il faut se poser la question.
Enfin, voilà, c'est une idée qui commence à cheminer.
Non, mais il faut se poser la question. Il y a quand même un vrai sujet sur l'histoire du cloud spatial et notamment pour venir nourrir, justement, et entraîner les modèles IA, etc. Aujourd'hui, le facteur limitant de l'IA, c'est l'électricité. Du coup, c'est la capacité à avoir finalement de l'énergie électrique un peu meilleur marché. Alors, ça ne veut pas dire que le spatial résout tout. Ça résout une partie de l'équation, mais pas la totalité, parce que voilà, les conditions dans l'espace sont un peu plus complexes que sur Terre.
Oui, parce qu'on parle de évidemment la température ambiante, mais il y a du rayonnement.
Il y a du rayonnement qui peut griller les circuits électriques. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas si simple que ça. Après, il y a un autre sujet aussi qui est la problématique de refroidissement. Et en fait, si tu veux, quand tu cumules les deux, quand tu regardes aujourd'hui les problématique sur les data centers, c'est qu'en fait c'est assez politiquement incorrect de construire un data center parce que t'as la problématique justement de rareté de l'eau et finalement le spatial apparaît comme un territoire à explorer parce que malgré les défis techniques qui restent qu'on n'a pas résolu du tout, c'est quand même un territoire sur lequel ça pourrait faire sens parce que au moins politiquement c'est un peu plus simple à gérer finalement dans la création.
En basse orbite on est à 600 km donc on est là, c'est pas assez.
Et après,
si loin.
L'alliance avec SpaceX fait sens parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes en termes de, finalement, de capacité de maintenance d'un certain nombre de dispositifs en grand nombre en orbite, c'est un peu les seuls qui savent le faire.
Oui, enfin, le partenariat, Didier. Oui, juste pour rappeler, le partenariat, d'après ce que j'ai compris, il porte uniquement sur le lanceur.
Oui.
Pas du tout sur le partenariat ressources ou quoi que ce soit.
Google, par exemple, il veut lancer des satellites capables d'héberger de la puissance de calcul de l'IA. Donc, il veut.
Leur propre truc indépendamment de ce que fait SpaceX de son côté.
SpaceX, qui a d'ailleurs signé avec Anthropic il y a quelques semaines.
Oui, c'est pour ça que ça peut bouger. Mais...
Et d'ailleurs, Google n'est pas en négociation exclusive avec SpaceX, c'est-à-dire qu'il pourra faire appel à d'autres lanceurs pour lancer ses réseaux dans l'espace.
C'est Origin en Europe.
On espère qu'ils vont évidemment s'adresser à Ariane. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça, et puis effectivement, ils ont l'idée étant que, moi j'ai trouvé ça très très poétique, c'est que on a d'un côté les rayons du soleil qui vont produire l'énergie, de l'autre côté le froid de l'espace qui va refroidir les datas.
C'est ça. Condition idéale.
Voilà. Je crois que l'espace n'est pas froid. En réalité, je crois que c'est une perception, mais je crois que l'état, c'est pas, c'est pour ça que c'est très difficile de refroidir.
Quand on est dans un avion, ils nous disent la température extérieure.
Mais en fait, je crois que c'est pour ça que c'est très difficile de refroidir. Enfin, c'est un des challenges.
Quand tu dis froid, c'est-à-dire quand il y a les rayonnements solaires, voilà, il y a ce côté, j'imagine, de chaleur. Mais
ce qui est intéressant, c'est que encore récemment sur ce plateau, on disait c'est une espèce de lubie d'Elon Musk de vouloir mettre des data centers, et puis c'est un bon moyen d'expliquer qu'il a besoin de lever beaucoup d'argent pour SpaceX à la veille de son rentrée en bourse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul à le penser. Et Sundar Pichai, même s'il y a 6% d'actions, mais ils ont tous des actions partagées, Sundar Pichai, en fait, y réfléchit depuis, semble-t-il, un certain temps. Ils ont des POC, c'est-à-dire des premiers essais qui sont prévus, avec une société qui s'appelait Planet Lab. Et les difficultés à résoudre, c'est effectivement la maintenance, parce que même si c'est à 600 km, ça paraît pas très loin sur la Terre, mais il faut y aller, donc changer un disque, c'est un peu compliqué. Donc il y a effectivement la maintenance, la résistance de l'électronique, s'il y a des tempêtes, je sais pas, voilà, une grande complexité.
Non, puis il y a les déchets dans l'espace aussi.
Les déchets dans l'espace, où ils peuvent avoir des chocs, etc. Mais il semblerait, et c'est ce qu'a l'air de dire Musk, et c'est ce qu'a l'air aussi de dire Sundar Pichai, que au global, le coût pourrait être compétitif par rapport aux investissements nécessaires sur la Terre. connaissant effectivement les contraintes, notamment énergétiques. Oui. Alors, cela dit, il y a quelques années, on parlait beaucoup de la fusion, c'est-à-dire une énergie à prix zéro. Ça veut peut-être dire qu'effectivement, c'est moins avancé que ce que l'on pouvait dire il y a un an et demi ou deux ans sur ces projets-là. En tous les cas, la quête de l'énergie et le pouvoir accéder à l'énergie, ce que va proposer Musk, est une vraie source de pouvoir.
Ouais. Ça, c'est Google... Oui, il y a l'histoire d'énergie, il y a l'histoire de latence aussi, parce que, alors je disais, c'est 600 km. Bon, les liens satellites, on voit quand même, ça s'est considérablement amélioré. L'histoire de souveraineté aussi, ouais. Quelque part. Hein, ça va être et de cybersécurité, je pense que, voilà, pirater un lien satellite, ça va être quand même être un peu plus compliqué que pirater une fibre optique.
Non, je ne miserai pas là-dessus. Non, hein, parce que justement, tu maîtrises un peu moins qui s'approche de ton système. Non, mais juste pour sur la fusion, en fait, aujourd'hui, on maîtrise le procédé hein, en gros sur une demi-heure, ce qui est quand même un progrès colossal par rapport à il y a ne serait-ce qu'un an et demi, deux ans. Et Google investit aussi sur ce thème-là. C'est pour ça que je disais que l'électricité, l'énergie est vraiment le facteur limitant aujourd'hui de l'IA, et on voit bien que tous les grands de la tech cherchent des manières de faire.
Exactement. Dans la fusion et l'espace,
c'est intéressant quand même.
L'alternative.
Dans cette info, c'est encore une fois les liens endogamiques qu'il y a entre les uns et les autres. Quoi. Je te fais un coup de main là-dessus, tu viens m'aider pour faire ci, j'investis dans ta boîte, mais je vais utiliser tes services, etc. On parlait d'Anthropique avec...
SpaceX, sur le projet Columbus, oui.
Mais ça a toujours existé, et c'est ce qui
Nvidia
fait la...
Nvidia avec Intel. Oui.
C'est la force du hub et de l'écosystème de la Silicon Valley. Il y a 25 ans, c'était déjà le cas. Yahoo avait des parts dans Google.
Ils se connaissent tous, en plus.
Yahoo avait des parts dans Alibaba. Yahoo a été sauvé par la valorisation d'Alibaba. Cette espèce parce qu'ils se connaissent tous.
Il y avait plus d'acteurs, je pense, à l'époque qu'aujourd'hui.
Je ne sais pas.
Le monde de l'IA,
les valorisations étaient moindres.
Il y a
5
entreprises et des satellites autour, quoi.
C'est vrai. Mais en tous les cas, ces relations, les gens se connaissent, c'est assez normal, c'est un village. Et donc, les investisseurs croisent régulièrement les chefs d'entreprise.
Allez, revenons sur Terre, et vraiment bien sur Terre, les deux pieds dans la glaise, les deux pieds robotiques, les deux pieds de nos robots bipèdes. Toi, Didier, tu l'avais carrément mis dans tes sujets, ton premier sujet dont il fallait débattre ce soir. Ouais. C'est la start-up américano-norvégienne Onyx qui ouvre une usine en Californie pour fabriquer, alors voilà, 10 000 robots néo par an. Le premier humanoïde grand public est à 20 000 $. Alors, on peut soit l'acheter, soit l'avoir avec un système de location. Il y a juste un détail, c'est qu'il n'est pas totalement autonome et un opérateur humain peut prendre la main. Et donc, s'il se promène chez nous, je crois que l'opérateur humain, il met un casque de réalité virtuelle et puis il devient et pilote le robot s'il y a le moindre souci, mais ça veut dire qu'il est chez nous.
Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu des commandes pour une année de livraison de produits, donc il y a des gens qui font entièrement confiance à ce genre de produits, et je ne sais pas s'ils sont vraiment informés sur tous les enjeux que ça représente, parce qu'effectivement, on l'a vu, la vidéo de ce robot qui sort la machine du lave-vaisselle, qui plie les vêtements et qui les range, etc. On se dit, c'est le monde de demain. Ça me fait penser à la science-fiction qu'on voyait dans les années 50 avec ces paysages idylliques, ces voitures volantes, etc. Le seul souci, c'est qu'il a besoin d'entraînement, et l'entraînement qu'il a est un entraînement assez généraliste. Et pour faire des tâches un peu plus compliquées, c'est là qu'il y a une décharge de souveraineté, je dirais, où effectivement l'opérateur à distance prend en charge le robot et lui montre les gestes à effectuer pour qu'il puisse s'entraîner et faire son apprentissage et mener à bien sa mission. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il regarde tout ce qui se passe chez vous, que même
Il cartographie la maison, déjà.
Il cartographie la maison, il voit les personnes qui sont là, il peut en déduire des informations sur la richesse du foyer, sur le nombre d'enfants à charge, sur les tendances politiques, artistiques, en fonction de ce qu'il voit, etc. Il y a plein de choses derrière qui arrivent. Alors, la boîte en question dit, nous, Onyx, nous...
On floute et...
On floute les personnes, on donne un cadre horaire, on crée des zones, des no-go zones pour éviter que le... Mais c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'on sait très bien comment ça va marcher. N'importe quel pirate va rentrer dedans et va avoir toutes les informations possibles, imaginables.
Souvenons-nous, il y a quelques semaines, on recevait ici un pirate qui avait piraté des aspirateurs de robots.
Donc il y a eu ce précédent-là. Maintenant, vous imaginez, avec un produit comme ça, il aura accès à tout ce qui se passe dans la maison, même peut-être le code de l'alarme qu'il aura vu quelqu'un effectuer. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi que va faire cette entreprise des données qu'ils vont récolter. Ils vont forcément les monétiser à un moment ou un autre. Et puis tout ce qui est l'aspect judiciaire, il peut y avoir des abus. On l'a déjà vu, il y a aucun régime n'est à l'abri d'un changement brutal de politique.
Et tout d'un coup, le robot devient le gardien de la maison. Et
ils vont demander à accéder à toutes les
informations.
Imagine
en période de confinement, en disant « Ah non, on sort pas ». Se met devant toi, Isabelle.
Oui. Alors moi, je suis vraiment, et c'est d'ailleurs la mission de Retency, de protéger la donnée personnelle. Donc je suis extrêmement attentive à ça. Cela dit, dans ce cas-là, et pour avoir vu des gens qui ont perdu leur autonomie, et c'est là où on va, c'est-à-dire que la démographie aujourd'hui des pays occidentaux est en baisse, on va avoir de plus en plus de gens qui ont eu des pertes
d'autonomie.
Même
la Chine, s'y faut.
Et il y a de moins en moins de jeunes pompiers qui sont là 24/24 pour venir soulever la vieille dame, s'assurer qu'elle n'est pas tombée,
mais là,
etc.
Tu parles de et choses donc, avec des bonnes intentions. Est-ce que tu crois une seule minute que les gens qui ont créé ça ont des bonnes intentions?
Je n'en sais rien. La seule chose que je dis, c'est que aujourd'hui, lorsque vous faites venir quelqu'un pour aider quelqu'un qui est dans la difficulté et qui n'est pas autonome, vous n'avez pas forcément son casier judiciaire non plus. Donc le problème existe quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est face à une perte d'autonomie d'une partie de la population de plus en plus grande, que la personne soit chez vous et abuse de vous, et on l'a vu encore récemment avec des histoires d'Orpea, etc., qu'elle abuse de cette perte d'autonomie, qu'elle soit directement chez vous ou par l'interface d'un robot. Les deux sont extrêmement compliqués. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on va plus, ou dans les 10 prochaines années, on n'aura plus suffisamment de bras humains qui vont en plus coûter de plus en plus cher pour faire face à la vieillesse de la population. Alors, sauf si Laurent Alexandre trouve un système pour que l'on vieillisse tous extrêmement bien et sans perte d'autonomie, je pense que ces sujets-là sont vraiment à regarder avec attention. Avec, bien évidemment, toutes les barrières qu'il faut mettre sur la qualité des gens qui sont derrière les écrans, etc. Mais à un moment donné, ça va devenir indispensable. Alors, il y avait des Japonais qui avaient effectivement eu ces idées les premiers, parce que c'est
Coréens aussi,
les Coréens, parce que c'est un peuple qui vieillit.
Et les Chinois
vieillit.
S'y mettent, parce que aussi, c'est la démographie en Chine est en train
de chuter.
Ils sont 700 millions, je crois, dans quelques années.
Donc tous ces pays, enfin tous les pays occidentaux et maintenant asiatiques et plus uniquement le Japon, sont confrontés à cette perte d'autonomie. Et donc, il y a un moment donné où il va falloir trouver des systèmes. Est-ce que c'est vivre ensemble? Est-ce que c'est vivre avec un robot, etc.? Mais
c'est pas ce que montre cette entreprise qui vise clairement un public plutôt fortuné.
Là, on voit des seniors.
Ouais.
Fortunés, mais seniors.
Accessoirement, ouais.
Alain.
Alors, moi, le sujet de la robotique humanoïde et du maintien à domicile, c'était un de mes sujets de recherche en 2016. Tout ça pour dire que il y a mine de rien en 10 ans des progrès quand même extrêmement importants, puisqu'à l'époque c'était avec Aldébaran Robotics, c'est un projet qui s'appelait Roméo, qui était une espèce d'armoire à glace de 250 kilos. Effectivement, on était très très loin de tout ça, et je me suis retrouvé face à face avec cette espèce de mastodonte, et on voit quand même mine de rien les énormes progrès techniques qui ont été réalisés sur une échelle de 10 ans.
Parce que c'est 40 ou 50 mécanismes à l'intérieur de ces robots.
C'est d'une complexité colossale. Mine de rien, j'ai pas eu le temps de regarder quelle est la durée d'autonomie en termes d'énergie électrique, on y revient, de ce dispositif. Moi, les robots humanoïdes, j'ai pas regardé celui-là, mais j'avais vu plutôt de l'ordre de 20-30 minutes. Mm-hmm. C'est encore assez light en termes de capacité. Enfin, la promesse est un peu trop élevée par rapport à la réalité de ce que j'ai vu. Après, il y a le vrai sujet de l'acceptation et de l'acceptabilité en fait du produit. À l'époque, quand j'avais interrogé des personnes âgées, en gros, ils m'expliquaient, non mais moi, un robot humanoïde, jamais de la vie, parce que le jour où j'achète un produit de ce type-là, ça veut dire que je reconnais moi-même ma propre dépendance. Mmh. Et ça, c'est en fait un geste extrêmement compliqué pour les personnes, justement, qui sont sur la voie de se retrouver sur la dépendance. Et on voit bien que du coup, c'est plutôt je repousse. Donc, est-ce que réellement les personnes âgées vont être la cible acheteuse du produit?
Surtout quand on n'a pas été, on parlait du Japon, nous on n'a pas trop été,
c'est pas notre culture.
En Occident, on n'a pas été élevé là-dedans, les Japonais peut-être un peu plus.
C'est pas du tout notre culture. Et après, moi je rejoins effectivement le point de la problématique de la privé, donnée. Hein. Enfin, le truc, c'est que là, ça me rappelle, tu sais, un peu les Waymo qui sont quand même conduits à distance par des humains. On fait croire que l'IA, la machine aujourd'hui, c'est un truc magique, mais on oublie de dire que les modèles de génération de texte sont quand même pré-entraînés par des humains. Dans des conditions qui sont pas forcément dingues. Là, on a des opérateurs qui peuvent prendre la main. C'est pareil sur les voitures, etc. Donc, il y a quand même tout un narratif autour de la technologie qui a finalement pour le coup pas trop changé en 10 ans. Mais il y a une réalité qui est effectivement un vrai point d'interrogation. Et effectivement, je crois que le vrai danger, c'est qu'on fait rentrer aujourd'hui des dispositifs dont on ne maîtrise quand même franchement plus rien en termes de sécurité.
Bon, voilà, c'était un sujet en tout cas intéressant. Mmh. Voilà, on est au tout début hein, de tout ça, mais on voit 20 000 dollars. Je ne dis pas que c'est abordable, mais pour certains foyers, 20 000 dollars, oui, c'est le prix d'une petite auto, une petite automobile. Donc pourquoi pas. Sauf que ça, il faudra regarder.
C'est beaucoup plus que les 2 millions d'il y a 10 ans.
Il faut que ça marche plus d'une demi-heure, quand même.
Oui, quand même. Oui, oui. Parce que la vitesse de vider la vaisselle, là, c'est la vitesse d'un ado, à peu près une demi-heure. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve avec nos trois débriefeurs, Didier Sanz, Alain Goudet, Isabelle Bambry, dans un instant. On va parler notamment du procès entre Sam Altman et Elon Musk. Ça commence à se battre sérieusement autour de ce procès. On parlera aussi de pourquoi. Tiens, hier on vous disait que Jensen Huang ne serait pas du voyage avec Donald Trump pour aller voir Xi Jinping et finalement, hop, il a eu un strapontin dans l'avion, comme par hasard. Voilà, on parlera de tout ça. Allez, restez avec nous. On est encore ensemble pendant une bonne heure sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, débrief de la tech, c'est reparti pendant une bonne demi-heure et ensuite on retrouvera Laurent Alexandre avec son co-auteur Alexandre Tsikopoulos. 40 ans les séparent, je le précise parce que justement c'est important dans ce livre. Vivre 1000 ans quand l'IA règne et la mort recule, rêve ou cauchemar. On en parle avec nos amis tout à l'heure, mais pour l'instant on est sur notre débrief avec Didier Sanz, journaliste, Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School et Isabelle Bordry, fondatrice de Retency. Un mot sur le grand règlement de compte de la tech qui continue devant les tribunaux, hein, troisième semaine du procès qui oppose Elon Musk à Sam Altman, avec un moment très attendu hier soir, la comparution du patron d'OpenAI, et forcément sa version des faits est très différente de celle d'Elon Musk. On écoute ce qu'en a dit ce matin Anthony Morel et on revient en plateau, et vous allez voir, ça a pas mal dézingué.
Musk accuse Sam Altman, alors qu'il surnomme d'ailleurs pour la petite histoire Scam Altman, donc c'est arnaque Altman, c'est dire déjà l'ambiance entre les deux hommes, d'avoir, je le cite, volé une œuvre caritative. Il faut se souvenir que les deux hommes ont cofondé OpenAI en 2015. À l'origine, c'était une organisation à but non lucratif qui voulait développer une IA au service de l'humanité, éviter qu'elle ne tombe entre les griffes de grands groupes privés. Et puis ensuite, ChatGPT est arrivé, OpenAI s'est développé et Sam Altman a un peu oublié ses grands principes, expliqué Elon Musk. Tout ça, c'est complètement faux, nous dit Sam Altman. Quand on lui demande si Musk s'est opposé à ce virage lucratif vers une entreprise à but lucratif, donc, il répond, bah non, c'est tout le contraire. En fait, Musk a voulu accélérer la transformation commerciale d'OpenAI. Il aurait même tenté d'en prendre le contrôle. Il aurait exigé une prise de participation de 90% et une fusion d'OpenAI avec Tesla. Il estimait, en fait, être le seul, être capable de piloter cette intelligence artificielle. Il voulait même en faire une sorte de monarchie héréditaire, si l'on peut dire. Alors ça fait halluciner tout le monde lors du procès. Altman raconte que lorsque les cofondateurs ont demandé à Elon Musk ce qui se passerait s'il mourait, il a répondu que le contrôle d'OpenAI pourrait revenir à ses enfants. Bon, alors il y a eu ensuite un contre-interrogatoire assez musclé de Sam Altman par l'avocat d'Elon Musk, où il a tenté, et il a tapé un peu là où ça fait mal, de le faire passer pour un menteur pathologique, en lui demandant plusieurs fois, est-ce que vous êtes sincère? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce que vous dites toujours la vérité? Pourquoi? Parce que Sam Altman, il a une réputation, c'est un visionnaire, c'est un génie, mais il a une réputation, il traîne une réputation de manipulateur et de menteur. Il y a vraiment deux camps qui se renvoient la balle. D'un côté, Musk, qui estime que Sam Altman a trahi le projet initial d'OpenAI, et Altman, qui accuse Musk d'être simplement jaloux d'avoir quitté le navire avant l'explosion mondiale de ChatGPT.
Bon, on le rappelle que c'est pas un procès anodin, hein. C'est vraiment ça pourrait avoir un impact considérable sur tous ces acteurs de l'IA, et notamment OpenAI qui est l'un des piliers et dont l'introduction en bourse est prévue bientôt. Enfin, et puis pourrait
ça tarde,
on pourrait venir 1000 milliards. Qu'est-ce qu'il faut voir de tout ça? Alors ça y est, là Sam Altman, c'était un des moments forts du procès parce qu'ils défilent tous. Hein. Il y a eu Satya Nadella qui est venu aussi parler de l'époque. Quand Sam Altman a été débarqué, voilà, de la direction d'OpenAI, puis finalement il est revenu. Enfin voilà, tout le monde a témoigné, Elon Musk compris, et donc là Sam Altman. Isabelle.
Ouais, ce qui est assez étonnant, c'est la guerre de deux hommes très puissants, et on s'aperçoit qu'effectivement ces sociétés sont à la main de personnalités qui sont quand même assez étonnante, différente, exceptionnelle, on va dire.
À la fois géniale, à la
géniale,
fois un peu...
voilà. Alors maintenant, entre les deux, je pense que Sam Altman a beaucoup plus à perdre qu'Elon Musk. Parce que Elon Musk, ça fait 26 ans, voire plus, 30 ans que les marchés financiers le connaissent. Depuis qu'il a vendu PayPal à eBay, qu'il a fait ses multiples levées de fonds pour SpaceX, pour Tesla, qu'il a racheté X, qu'il avait même été accusé à un moment de manipuler le cours de X et de négocier de manière un peu particulière. En fait, son côté irascible, difficile, est déjà dans les cours des sociétés qu'il dirige, en fait. C'est déjà intégré par les investisseurs. Alors que Sam Altman, alors il est très connu grâce à OpenAI, mais il débute aujourd'hui en tant que chef d'entreprise.
Certains le connaissaient quand il était chez Y Combinator, mais voilà.
C'est ça. Mais
là, il n'était pas porté.
Chef d'entreprise, créateur de valeur réellement, et il est le côté IPO devrait, son IPO est annoncé, mais elle est retardée de plus en plus avec une directrice financière qui essaie d'expliquer qu'il faut mettre plus de rigueur dans la gestion d'OpenAI. Et donc, lui est obligé d'expliquer à tous qu'il est honnête, qu'il a de l'éthique. Et ça, c'est quand même absolument fondamental. Et donc, il se retrouve dans une situation extrêmement défensive qui, à mon avis, est très préjudiciable pour OpenAI. Alors maintenant, ce qui est aussi terrible, c'est qu'on s'aperçoit qu'aux États-Unis, la manière dont est gérée une entreprise dépend de la personnalité de son CEO. Bah, et je trouve bien plus que dans les entreprises européennes, où il y a une plus forte mise de la régulation,
ou d'ailleurs, on
de
est souvent un président
faire,
au-dessus
de la norme,
au-dessus
etc. DGR, hein. Voilà, on voit par exemple Mark Zuckerberg a une gestion de la vie privée qui est très différente de ce que peut avoir un Tim Cook ou que pouvait avoir un Steve Jobs. Donc il y a l'ADN en fait d'une société aux États-Unis est porté principalement par son fondateur. Et ça, ça m'a toujours extrêmement marqué. C'est-à-dire que la culture d'entreprise dans les entreprises européennes est quand même beaucoup plus diluée dans un comité, un comité d'administration. Il y en a aussi aux États-Unis, mais dans un comité directeur, des valeurs de marque qui sont plus universelles et pas uniquement liées à la personnalité du CEO. Voilà. Donc, on va voir ce qu'il en ressort. Beaucoup moins à perdre. Alors après, qu'une société fasse un pivot, parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Ils avaient cofondé cette société au départ en se disant il va y avoir une intelligence artificielle et il faut que ça soit du non-profit. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a plusieurs intelligences artificielles.
Il faut gagner de l'argent.
Même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc effectivement, il y a eu ce pivot qui a été fait, poussé sûrement par Microsoft et Sam Altman. Il se trouve que ce n'était pas en accord avec Musk, que c'est une guerre entre associés. Voilà. Après, que Musk dise « je veux que mes actions aillent à mes enfants », je ne suis pas plus
sûre. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que je veux que la direction d'entreprise aille à mes enfants.
Alors
c'est
après,
un côté très régalien.
S'il en a 90%, s'il en a 90%, c'est ce que fait Bernard Arnault et ça choque personne. Donc après, tout ça se regarde avec beaucoup d'attention parce que tout dépend de la participation des uns, de l'adoption de la stratégie par les autres. Enfin, tout ça est compliqué,
Alain,
comme toute association.
Didier.
Bah, on y retrouve un peu le côté endogamique de la Silicon Valley hein, qu'on évoquait. Et là, le truc, c'est que ça déballe un peu les affaires familiales au grand jour.
Oui, puis en plus, je te traite de mensonge, moi, je te traite de menteur, l'autre arnaqueur.
Ça vole pas très haut.
De la femme de Elon Musk qui joue un rôle là-dedans.
Oui, il y a quand même effectivement des trucs pas super clairs, parce que là, tu fais bien de le rappeler.
Oui, d'ailleurs, c'est Wifis Chelis là, qui était un peu un indique d'Elon Musk au sein d'OpenAI.
Mais Guillaume Gralet, dans son bouquin Pionnier, le décrit assez bien. C'est intéressant à lire, hein, d'ailleurs, sur un peu l'envers du décor. Et tu le dis très, très bien. Hein. C'est vrai qu'aux États-Unis, l'ADN des fondateurs et la vision, la culture imprègnent énormément l'entreprise. Et du coup, c'est intéressant de regarder comment ces personnages fonctionnent, en fait, sur leur rapport au monde. Et c'est ce qu'explore Guillaume. Mais du coup, on a effectivement ce sujet où, bon, quand on regarde le discours des uns et des autres, c'est un peu mentira bien. Qui mentira le dernier, quoi. Enfin, c'est un peu. Voilà, on sait pas trop. Je suis pas sûr qu'on ait moyen réellement de faire toute la lumière sur le sujet. Mais
parce que là, c'est parole contre parole.
On verra. Je rappelle quand même aux États-Unis que la justice généralement se règle avec un bon chèque. Donc, bon, voilà, je serais pas surpris que ça termine au final comme ça. Et par contre, je trouve que la question que ça soulève, c'est la problématique, en fait, de la gouvernance, en fait, de ces quelques sociétés. qui maîtrise ce truc qu'on appelle IA, et notamment qui se destine à être IA générale dans notre quotidien, et on reboucle.
C'est qui de temps en temps s'affole en disant attention, l'IA ça va trop vite, oh là là, je vais pas la mettre à la portée du grand public.
Il nous joue un peu le truc de ah bah oui, mais quand même, faut pas que ça aille trop vite, mais on avance très très vite, ah puis au fait, ça va détruire tous les emplois, mais on y va quand même. Enfin, on a une espèce de discours un peu d'injonction paradoxale quand même de ces personnes-là, Musk, Altman, du côté d'Anthropic, pareil, hein, Amodei, enfin, voilà, ils nous servent un peu tous le même discours, et mine de rien, en fait, tout avance. Et après, il y a le dernier point, bah, Elon Musk a quand même son investissement très fort dans sa capacité de compute, comme on dit, mais du coup, avec un Grok qui a un peu du mal à décoller, oui, en tout cas, qui est très très loin derrière.
On l'a appris, hein, on en a débattu là, lundi soir, comme quoi Grok voilà, était bien derrière les OpenAI.
Et oui, donc et du coup, bon, tout ce qui peut être bon pour freiner le leader peut être intéressant à regarder.
Et après,
quoi.
Effectivement, se joue, où est le pouvoir en fait, oui. Est-ce que le pouvoir est vraiment dans l'outil et dans l'entraînement? Est-ce que le pouvoir est sur la maîtrise de l'énergie? Est-ce que le pouvoir, c'est sur les lanceurs qui vont permettre d'avoir l'énergie du soleil? Tout ça est assez complexe et c'est effectivement ce qui crée une guerre de pouvoir.
Didier, et même, est-ce que dans l'histoire, on n'a pas connu, des batailles, hein, on se souvient de Bill Gates face au patron de Sun Microsystems, voilà, il se lançait des petits pics, Larry
Ellison, Ou même Steve Jobs contre Bill Gates.
Steve Jobs, voilà. Mais il n'y a jamais... Enfin,
C'était correct. Non, mais ce qui est intéressant dans ce process, c'est qu'on en apprend beaucoup sur Sam Altman. Effectivement, comme le disait Isabelle tout à l'heure, c'est une personnalité qu'on connaît assez peu finalement. Mm-hmm. Et on découvre un personnage manipulateur, menteur, qui cherche à tout pour obtenir gain de cause. Rappelez-vous, en 2023, on était sur ce plateau pour en parler, on venait d'apprendre qu'il a été débarqué effectivement d'OpenAI, on se demandait pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un putsch à l'intérieur de cette boîte, heureusement, deux jours plus tard ou trois jours plus tard, les choses sont entrées dans l'ordre, et on a
grâce à Satya Nadella,
voilà, on a le fin mot de l'histoire, parce que le type est insupportable, apparemment. Même ses collaborateurs sont venus en disant, Sam Altman, il est pas facile à jouer tous les jours, et en plus, il monte certains collaborateurs les uns contre les autres, il dit une chose à l'un alors qu'il a dit le contraire à l'autre, etc. Bref. On découvre.
C'est ce qu'on a, enfin, de gens plus privés. Alors, ils m'ont raconté que des gens qui travaillaient avec lui disaient que voilà, parfois on divisait pour mieux régner, mais voilà, c'est un management un peu toxique.
Voilà. Donc, on découvre cet aspect de Sam Altman, à qui on donnerait le bon Dieu et son confession. Il a une bonne tête, il est gentil, il a l'air toujours un peu étonné, un peu timide, etc. Bon. Méfiez-vous. On ne juge pas un livre par sa couverture, comme dirait l'autre. Et, à côté, on a le personnage d'Elon Musk qui joue son rôle, c'est-à-dire une espèce de d'éléphant dans un magasin de porcelaine où il arrive pour tout casser et où il explique que seule sa vérité compte, même si les avocats lui disent que sa vérité n'est pas forcément la vérité qu'on attend dans ce genre de tribunal. Et notamment, on découvre qu'il a manifestement souhaité prendre le contrôle d'OpenAI, que ça s'est pas passé et que du coup, il en conçoit un certain ressentiment.
Alors, souvenons-nous qu'à une époque, il avait aussi, quand on avait parlé d'Apple, la succession de Tim Cook, il avait proposé. Enfin, il se dit. On n'a jamais eu la preuve de
non,
tout ça.
D'ailleurs, ça m'étonne parce qu'il l'aurait écrit sinon.
Ouais.
Il l'aurait publié sur X.
Mm-hmm. Parce qu'on voilà, on soupçonne qu'il aurait dit à Tim Cook, allez, tu rachètes Tesla et puis je deviens le patron d'Apple.
Comme le disait bien Isabelle tout à l'heure, en fait, qui a gagné quelque chose dans cette affaire? Aucun des deux.
Il y en a peut-être un qui a plus à perdre.
Quoique Elon Musk, lui, on connaît le personnage, on sait que c'est un taré, que bon, il prend des décisions un peu à l'emporte-pièce, mais
il a des réussites quand même au contraire.
Non, mais c'est pas la question. C'est le fait est qu'il se fiche complètement de sa réputation. Ça fait des années qu'il mène la direction de différentes entreprises.
Et n'oublions pas qu'il y a encore un an, il était dans la politique et il était en train de massacrer
à la tronçonneuse.
Trump.
Donc lui, il s'en fiche complètement de sa réputation. On sait que c'est un personnage extrême, parfois un peu loufoque. Mais encore une fois, il s'en fiche. Alors que Sam Altman, effectivement, le problème, c'est qu'on découvre la personnalité de ce bonhomme. Et à quelques
c'est
mois.
C'est peut-être lui qui a un peu plus à perdre. Comme
c'est lui qui a tout à perdre, parce que à quelques mois, effectivement, d'entrée en bourse, ça va créer une mauvaise image sur sa boîte, et du coup, les investisseurs vont être un peu plus timides à lui faire confiance, parce qu'ils découvrent, encore une fois, quelqu'un qui est manipulateur et menteur.
Oui. Oui, c'est ça. En fait, le point clé et le point faible, c'est absolument celui-là. C'est-à-dire
même
la capacité.
Oui.
Absolument. La capacité de Sam Altman à pouvoir entraîner une équipe pour innover, renouveler et créer de la valeur. Aujourd'hui, Musk, il est absolument un tyran, mais Steve Jobs l'était aussi. Bill Gates était aussi pas très agréable. Donc, le fait que vous soyez pas très agréable n'est pas un sujet. Mm-hmm. Par contre, votre capacité à faire travailler les ensemble, à trouver les bons, à les motiver, ça c'est un élément clé pour les investisseurs.
Et en plus, moi je trouve qu'à les trouver au bon moment, je trouve que Musk, il a une des capacités, c'est, on dit oui, là, il jette des gens comme des mouchoirs, oui, mais il dit à un moment, tiens, là, il faut que je franchisse, enfin que je...
Un cap supplémentaire, il va trouver les talents,
et il va virer cela, même si celui-là l'a aidé,
il va les séduire pendant un certain temps, absolument. Et là, la capacité, enfin Sam Altman, il n'a pas encore vraiment créé de valeur. Alors, un peu, oui, bien sûr, mais pour l'instant, c'est que...
Il
a créé un standard, mais par rapport à ce qu'a fait Elon Musk, ça n'a rien à voir. Et donc pour les investisseurs et l'entrée en bourse, je pense que ce sujet, et c'est pour ça qu'il est très couvert par la presse américaine et par les médias du monde entier, c'est le fait que l'IPO arrive ou devrait arriver ou n'arrivera peut-être jamais. Moi, à mon avis,
il n'arrivera pas. 1 milliard de dollars quand même, hein, on n'est pas.
Oui, mais ça va attendre les résultats du procès.
C'est ça. Alors que l'IPO de SpaceX à 1750 milliards de dollars, là, par contre, c'est quelque chose qui existe, il y a des premiers rapports qui sont faits, etc. Donc, je pense que pour OpenAI, moi, je pense que OpenAI, c'est un peu le Netscape des années 2000, on verra s'il arrive à s'en sortir. Je pense que c'est encore un coût négatif pour cette équipe qui pourtant a fait un produit assez exceptionnel. Hein.
Je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, le fait est qu'en ce moment, OpenAI va mal.
Bien sûr.
Rappelez-vous, ils sont en retard sur les modèles.
On a parlé de faillite. Hein.
Langage.
Alors, pas jusque-là, mais quand même.
Ils perdent des sous énormes. Ils sont en retard sur leur modèle de codage, etc. Ils se sont pris les pieds dans l'histoire du marché du Pentagone en prenant la place tout de suite, en se précipitant pour prendre la place d'Anthropic, qui refusait pour des raisons éthiques de participer à ces opérations. Bref, ils avaient déjà une image qui était bien écornée, et là, je pense que ça va encore les plomber.
Et puis même si Fujisimo est venue, bon, malheureusement, elle a dû se mettre un peu en retrait pour des raisons de santé, mais elle est venue un peu remettre un peu d'ordre, mais on l'a bien vu. Remise en ordre, c'est de dire, bon, les gars, la récréation est finie, on va arrêter Sora grand public, il y a des choses qui sont lancées un peu à la va-vite, on va quand même se concentrer sur ce qui doit rapporter de l'argent. On sent bien qu'elle a dû découvrir un peu que le management était un peu particulier et la gestion aussi. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet. On va rester dans les personnalités. Vous savez que, je pense que ça ne nous a pas échappé que Donald Trump a atterri il y a quelques heures en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Dans son avion, plein de patrons, des patrons de la tech justement, alors il y a Tim Cook. Hier, on s'en faisait l'écho ici même. Il y a un certain Jensen Huang qui se plaignait, qui ne comprenait pas. Il n'avait pas été invité. Et puis finalement, Donald Trump a dit, mais pas du tout, il y a eu une petite erreur on a dû oublier le mail ou je ne sais quoi, et au final Jensen Huang était bien dans l'avion
pendant l'escale.
Voilà, il a été clairement repêché. Alors c'est vrai que les relations Jensen Huang avec l'administration américaine, parce qu'il voudrait qu'on assouplisse les règles de douanières pour pouvoir mieux exporter en Chine, la concurrence, parce qu'il voit en même temps que quand il n'est pas en Chine, la concurrence elle s'organise aussi derrière tout ça. Est-ce qu'il y a pas, il y avait aussi peut-être un côté de Donald Trump, oui, Jensen Huang, il est un peu d'origine taïwanaise, ça peut fâcher, il y a tout un ensemble de choses. Comment il faut voir ça,
Donald Trump de racisme, c'est ça?
Il n'y a rien dit.
De lutter contre l'immigration.
Voilà. Comment voyez ça, Didier?
Alors, c'est complètement rocambolesque, cette histoire. Déjà, comme tu le disais, un jour il est là, le lendemain il est. Un jour il est pas là, le lendemain il est là. Et puis surtout, l'argument, c'est de dire oui, il a vraiment des choses à dire au président chinois, etc. Il a rien à dire au président chinois. La seule interlocuteur qu'il a, c'est Trump. C'est Trump qui l'empêche d'exporter ses produits qui lui rapportent le plus en Chine. Et c'est Trump qui, du fait de l'embargo sur les systèmes électroniques, a permis à la Chine de créer des concurrents crédibles face à Nvidia. Donc, qu'il aille en Chine, ok, je veux bien, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire le vol avec Trump pour pouvoir le dire, lui donner les coups de coude en lui disant il faut vraiment que j'arrive à vendre ma production en Chine.
Il était dans la soute. il n'était pas en première à l'avant.
Donc il n'arrête pas de dire que le contexte économique lui est pas favorable. Encore une fois, c'est pas au président chinois qui va s'adresser. Il va essayer de convaincre Trump d'assouplir les règles pour qu'il puisse retrouver ses parts de marché en Chine. Qui représentait quand même, c'était un cinquième de son chiffre d'affaires. C'était énorme.
Avec perspective énorme, bien entendu.
Déjà, un premier truc, c'est que quand même, Nvidia est le marchand d'armes de la guerre de l'IA, au niveau mondial. Et effectivement, c'est une équation très compliquée à gérer pour l'administration Trump. Parce que à la fois, c'est une entreprise américaine qui, n'est plus complètement américaine puisque son rayon d'action est mondial et finalement représente un enjeu géostratégique important. Et donc ça plaide plutôt quand même pour l'emmener, mais c'est aussi un enjeu géostratégique important et ça plaidait pour ne pas l'emmener parce que une des équations c'est d'essayer de ralentir la Chine sur ses progrès autour de l'IA. Et ce faisant, l'administration qui était au départ sur un bannissement complet a finalement allégé déjà un peu son dispositif parce que le bannissement complet a engendré ce qui se passe habituellement et ce qu'on connaît déjà sur le modèle chinois. Ok, c'est pas autorisé sur le territoire, c'est pas grave, on va faire avec nos propres
entreprises. On va se débrouiller, on va faire ça de façon frugale, mais on va y arriver.
En termes de hardware, il y a en gros, je crois, 6 mois, 1 an maximum de décalage en termes de capacité du hardware chinois versus le hardware américain.
Ouais. Ils ont vraiment réduit, parce qu'on parlait de plusieurs années
l'équation c'est comment finalement un truc qui était le bannissement complet fait naître de la concurrence qui n'est pas très arrangeant pour les affaires, donc voilà, et l'administration Trump est prise un peu dans ce truc-là, et je rejoins complètement ton analyse, je pense que le sujet c'est pas tellement de pouvoir parler avec Xi Jinping, c'est plutôt de profiter du temps de vol aller et retour pour essayer de convaincre effectivement l'administration Trump de laisser finalement Nvidia opérer en Chine.
Et en fait, c'est le seul sujet sur lequel Biden et Trump étaient alignés. C'était sur le fait de bloquer et de faire en sorte que les Chinois n'aient pas accès aux semi-conducteurs, entre autres de Nvidia, c'est-à-dire aux supercalculateurs. Et en fait, le premier règlement, et en plus c'est vraiment passé au Congrès, c'est une loi, il y a une interdiction depuis 2022 de vendre des puces extrêmement performantes avec une caractéristique spécifique, notamment produite par Nvidia, sur le marché asiatique. Donc après, ça a un peu évolué, alors ça s'est renforcé à un moment donné avec Trump, parce qu'il y a eu cette notion d'extraterritorialité, merci, qui d'ailleurs touche énormément d'entreprises, dont des entreprises européennes. On avait parlé d'ASML à ce moment-là, qui ne pouvaient pas vendre leurs produits parce qu'ils utilisaient dans leurs produits des brevets qui étaient des brevets issus des entreprises américaines, et donc ils avaient le marché chinois qui était de facto bloqué. Donc en fait, c'est cette notion de souveraineté dont on parle beaucoup sur ce plateau pour l'Europe, c'est-à-dire comment préserver sa souveraineté, comment empêcher son premier ennemi de devenir plus intelligent. Au début, on fait un blocus, on bloque tout. Alors il se trouve qu'effectivement, les Chinois sont des gens intelligents et qui vont assez vite et qui vont de plus en plus vite, donc ça les bloque pas forcément. Mais ce sujet de la souveraineté américaine et cette difficulté pour Trump à se décider, est-ce qu'il vient, est-ce qu'il vient pas, en fait, je le comprends un peu, parce que bon, effectivement, Nvidia est un acteur extrêmement important, mais aujourd'hui, il a pas le droit de vendre à la Chine des produits extrêmement compétitifs pour des raisons que je trouve assez légitimes quand on est dans les chaussures des Américains.
Oui. Donc en tout cas, il fait partie du voyage.
Finalement, et puis, il y est. Donc peut-être que Trump va revoir sa copie et peut-être qu'ils vont discuter dans l'avion. Ils ont eu 2 heures de moins parce qu'il a pris son avion à Anchorage.
Non, après, c'est vrai que ce que disait Didier, c'est rocambolesque.
C'est assez rocambolesque.
Si, on l'avait bien invité, alors que hier il disait j'ai pas. Enfin, dans son entourage, il disait qu'il n'avait pas été invité, mais lui disait très politiquement. Mais si on fait appel à moi, je serais ravi de un prochain voyage de faire partie de
peut-être grâce à ce buzz qu'il a été finalement.
C'est ce qui se dit. Il se dit que Trump a été très surpris par le buzz de dire il n'y a pas Jensen Huang dans l'avion.
Mais cela étant, ce que tu disais tout à l'heure n'est peut-être pas malvenu. C'est-à-dire que le fait qu'il soit d'origine taïwanaise explique peut-être que Trump a eu peur que ça effraie ses interlocuteurs chinois.
Explique qu'il y a un ou deux conseillers qui lui disent attention, c'est un Taïwanais. C'est, ça réagit un peu comme ça, à mon avis. Hein,
oui, je pense qu'ils sont, ils ont pas vraiment.
C'est assez basique, parfois.
Voilà, de notions sophistiquées de la géopolitique. Mais c'est le problème, c'est que cet aréopage de PDG qui part en direction de la Chine, ça fait quand même un peu néocolonialisme sans aucun recul. Il y a un truc qui étonne tout le monde, c'est que dans le vol, dans les personnes de la délégation, il y a aucun spécialiste de la Chine.
Oui.
Il y a même pas un universitaire ou quelqu'un qui leur dirait attention les usages ceci ou les machins cela, etc. Ils viennent pour faire du business.
Oui, bien sûr, mais Tim Cook connaît parfaitement la Chine.
Oui, mais c'est pas lui qui va donner des conseils, tu vois, de
géopolitique. Non, mais ça, bien sûr que pour la géopolitique, il y a les conseillers de Trump. Mais enfin, aujourd'hui, quand on voit le poids de ces grands CEO en Chine,
ils connaissent l'aspect économique. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, si tu veux vraiment faire des relations durables entre un pays et un autre, il faut aller un peu plus loin que le seul
deal économique.
Bien
sûr, mais chaque président part en général, et Macron le fait aussi, et tout le monde le fait, part avec des acteurs économiques
et des universitaires.
Pour créer des partenariats.
Des gens de l'art et de la culture.
Allez, on s'arrête là. On avait un dernier sujet sur TikTok, hein, justement, en Angleterre. Ça aurait été intéressant d'en parler parce que, justement, ils prennent un peu le contre-pied de Bruxelles hein, en sortant une version payante. Vous payez, les utilisateurs britanniques pourront payer pour avoir TikTok, mais ils n'auront pas de pub. Et ça, c'est un peu anti-DMA, jugé Bruxelles à l'époque.
Ouais, c'est la stratégie des dealers.
Voilà, on en reparlera à une autre occasion. Merci à tous les trois. Didier Sang, journaliste. Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School, et Isabelle Bordry, fondatrice de Retensi. Merci infiniment d'avoir porté votre enthousiasme autour de cette technologie et de tout ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, ça se passe vraiment à toutes les heures, il y a de nouvelles actualités. Allez, je vous donne rendez-vous dans un instant. On reçoit Laurent Alexandre, médecin, entrepreneur et puis surtout co-auteur du livre « Quand l'IA règne, la mort recule, rêve ou cauchemar, vivre 1000 ans ». Alors, il avait déjà écrit un livre en 2011 sur la mort de la mort et il est accompagné d'Alexandre Tsikopoulos, start-upper. Alors, si vous voulez le suivre sur X, voilà, ils s'échangent beaucoup. Enfin, c'est assez intéressant de les suivre. Alors, on va être ensemble avec eux pendant une bonne demi-heure. Donc, restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 21h.
Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Voilà, pour ceux qui doivent partir en week-end, attendez un peu, je vous promets une demi-heure très animée avec nos deux invités qui nous font le plaisir d'être avec nous. Laurent Alexandre, bonjour Laurent.
Bonjour.
Bonsoir, merci d'être avec nous, médecin, entrepreneur, et puis donc auteur, alors plusieurs livres, hein, c'est le combienième celui-ci ?
C'est le 13e.
13e livre, et d'ailleurs il y en avait déjà eu un, La mort de la mort, hein, qu'on va revenir dessus, et donc merci d'être avec nous. Ce livre s'appelle Vivre 1000 ans, aux éditions Buchet-Chastel, il sera en vente à partir du 14 mai, c'est bien ça. Et il a été coécrit justement avec Alexandre Tsikopoulos. Bonsoir.
Bonsoir.
Alexandre, merci d'être avec nous. Start-upper, c'est comme ça qu'on peut. Voilà. Donc co-auteur de ce livre. Pourquoi, alors vous allez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de le coécrire ensemble. Alors si on vous suit sur les réseaux sociaux, on voit que voilà, vous faites un jeu de ping-pong, vous êtes tous les deux des techno-progressistes. Et cet ouvrage est vraiment intéressant. Alors, pour tout vous dire, j'ai demandé à ChatGPT, je dis, est-ce qu'il faut lire ce livre? Alors il m'a dit, je vais être très bref, il m'a dit, je trouve que Vivre 1000 ans a le mérite de poser des questions vertigineuses, très actuelles sur le croisement entre IA, biotech, pouvoir. Le livre est stimulant intellectuellement, parfois provocateur, mais aussi marqué par un certain techno-déterminisme qui tend à sous-estimer les freins politiques, sociobiologiques. Sa vraie force n'est pas tant de prédire l'avenir que d'obliger le lecteur à réfléchir. Voilà, ça c'était la partie. Et je lui ai quand même dit, et si tu devais le critiquer? Il m'a dit, la critique principale, c'est de ce livre confond parfois vitesse du progrès technologique et la capacité réelle des sociétés à absorber ces ruptures. Voilà un peu la vision. Alors, je sais pas s'il l'a lu en entier. Moi, j'ai pas mal parcouru cet ouvrage. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on va parler un peu de la mort de la mort. On est à la veille de l'ascension, tiens, où Jésus monte aux cieux justement pour cette vie éternelle. Et puis il y a plein de choses dans ce livre, parce qu'on se souvient, il y a quelques mois, on parlait là de Donald Trump avec Xi Jinping. C'était Xi Jinping et Vladimir Poutine qui s'étaient, on avait surpris à un bout de leur... Vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Une discussion.
La télévision chinoise n'avait pas coupé les micros.
Voilà. Et ils disent, oui, alors tu fais quoi? Ils avaient parlé de transhumanisme, hein, carrément.
Des organes artificiels et de la possibilité de l'immortalité.
Alors, déjà, première chose, pourquoi avoir décidé de faire ce livre tous les deux?
Pour une raison simple. C'est qu'on a voulu montrer le décalage de perception psychologique intime qu'on avait quand on était vieux comme moi et puis jeune comme Alexandre.
40 ans d'écart.
Avec voilà, des préoccupations qui sont différentes. Moi, je sors du marché du travail, je me rapproche de chez Orpea et puis Alexandre rentre sur le marché du travail à un moment où les jeunes sont angoissés. On l'a vu avec les deux tentatives d'assassinat de Sam Altman aux États-Unis.
Exactement, oui.
Avec un manifeste par l'un des assassins potentiels fait par un jeune de 20 ans qui exprimait sa haine de l'IA et sa volonté de lutter contre l'IA avant qu'il soit trop tard, selon ses propres mots. Et puis on voit dans les sondages qui sont sortis le Gallup de mars dernier, où la génération d'Alexandre exprime sa peur, son angoisse, sa colère contre l'IA avec des pourcentages qui ont beaucoup, beaucoup augmenté. Sur un an, l'angoisse et la colère des jeunes Américains face à l'IA a pris 14 points. Oui. La jeune génération a vraiment peur aujourd'hui d'être déstabilisée sur le marché du travail. Et donc, on a voulu montrer que finalement, selon l'âge, on n'a pas le même rapport psychologique avec l'IA.
Moi, c'est ce qui m'a marqué. À un moment dans le livre, on dit, voilà, le vieux, voilà, l'ancien a peur de mourir, le jeune a peur d'être inutile. C'est ça, Alexandre ?
Tout à fait. Bah, peur de l'inutilité, c'est assez compréhensible. Laurent le rappelait, ma génération, il y a une certaine colère qui se met en place face au développement de l'intelligence artificielle qui est tout à fait compréhensible parce que lorsque vous industrialisez l'intelligence sans penser une seule seconde à ses conséquences sociales, politiques, c'est un drame, car la réalité, c'est lorsqu'on industrialise cette intelligence que l'on met en place des machines plus intelligentes que l'homme, plus rapides que l'homme, coûtant moins cher, c'est ma génération qui est directement impactée. Mmh. Car l'intelligence artificielle s'attaque au bas de la pyramide. Elle s'attaque aux tâches d'entrée de gamme, celles qui nous permettaient d'apprendre un métier.
On dit beaucoup dans le milieu de la finance, de la comptabilité, dans le milieu du conseil, dans le milieu des avocats.
On le voit très bien aux États-Unis, notamment le recrutement chez les jeunes est en train de baisser, mais ce qui est tout à fait compréhensible, parce que justement, c'est ce que je disais, l'intelligence artificielle s'attaque aux tâches d'entrée de gamme, celles qui peuvent être automatisées. Et donc, c'est directement les jeunes qui sont concernés par l'intelligence artificielle. Et en réalité, l'intelligence artificielle aujourd'hui, et on le voit, elle renforce les positions des seniors qui sont déjà en place.
Oui, je disais, il y avait une citation, j'ai retrouvé d'Oscar Wilde qui disait « Avec l'âge vient la sagesse, mais parfois l'âge vient seul ». J'ai trouvé que c'était assez amusant. Alors justement, dans le début, je ne sais pas si c'est le premier chapitre ou le prélude, ça s'appelle « Vertige », parce qu'évidemment, on a un peu le vertige avec toutes ces technologies. Laurent, deux frontières se fissurent en même temps, l'IA devenue abondante et la mort devenu négociable. Et c'est ça qui va tout transformer. C'est un peu ça qui est la base
générationnelle. On avait des vies très courtes qui ont commencé à allonger. Parce que sous Louis XV, en France, l'espérance de vie des hommes était de 25 ans et l'espérance de vie des femmes était de 27 ans. Oui. Donc ça a triplé. Oui. On a déjà un peu gagné. Mais là, la Silicon Valley nous promet un doublement de l'espérance de vie très vite. Elon Musk a promis 150, 160 ans d'espérance de vie dès 2032-2035. Oui. Dario Amodei, créateur de Claude, et qui est aussi biologiste, promet un doublement de l'espérance de vie dans moins de 10 ans. Et puis Demis Hassabis, le prix Nobel de chimie 2024 et patron de toutes les IA de Google, garantit qu'entre 2035 et 2040, on va guérir la totalité des maladies humaines, tous les cancers, les maladies neurodégénératives. Et il assure
qu'avant ça, c'est parce que la super IA...
Et il assure qu'avant 2040, on saura rajeunir les cellules, rajeunir les organismes et rajeunir nos corps. C'est-à-dire de, non pas de ne plus vieillir, mais d'anti-vieillir. Et c'est assez vertigineux, mais le prix à payer pour cela, si l'on écoute les gens de la Silicon Valley, c'est qu'il faut accepter la super intelligence artificielle.
C'est ça.
Car effectivement, le vieillissement est un phénomène très compliqué et sans super intelligence artificielle, on ne pourra pas lutter contre le vieillissement. C'est quasiment un pari faustien.
Je comprends bien du coup parce que j'avais une question sur un moment la mort grignote l'IA grignote la mort, c'était bien ça, j'essaie de retrouver dans toutes les notes, mais c'était ce qui était dit. Comment on fait ce lien justement, cette même question là sur cette IA abondante, donc pour nous tous on va dire là, et puis cette mort devenue négociable.
Laurent l'a rappelé, en moins de 3 siècles l'espérance de vie a triplé, notamment chez les femmes et les hommes qui passaient de 1750 de 27 ans à aujourd'hui 85 ans pour les femmes, pour les hommes c'est un petit peu moins. Et le lien entre la mort et l'intelligence artificielle est directe. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet de faire des progrès absolus dans le domaine médical. Je pense notamment à AlphaFold qui a découvert en trois dimensions qui a découvert 200 millions de protéines en trois dimensions en quelques semaines, alors qu'il aura fallu.
Mais quand on est jeune, on doit être hyper enthousiaste quand on voit ça.
Alors, mais je suis hyper enthousiaste. Je ne dis pas que je veux, que je veux mourir, bien sûr. Au contraire, vivre 1000 ans, je dis pourquoi pas, mais je dis à quel prix. Car si c'est pour vivre 1000 ans en étant un chimpanzé du futur, en ne comprenant plus rien, en n'ayant plus les mains sur les manettes, en étant dépassé par une machine, ça, je n'en veux pas. C'est une dystopie absolue pour ma génération.
Il faut dire qu'on est dans une situation exceptionnelle. Jusqu'à présent, les vieillards comme moi étaient remplacés par les jeunes et disparaissaient. Aujourd'hui, les jeunes,
en ayant transmis,
ils ne sont pas dans l'attente de remplacer les vieillards, ils sont dans l'attente d'être remplacés par la supéria. C'est un changement radical pour la jeunesse, parce que être jeune avant, c'était tuer les vieux et prendre leur place. Maintenant, c'est se faire piquer la place par la supéria.
Avec un effet de transmission,
c'est quand même un choc.
Avec un effet de transmission, parce que les anciens transmettaient aux plus jeunes, et là, les plus jeunes disent bah, pas la peine de me transmettre, j'ai déjà tout avec l'IA.
Les jeunes sont dépassés. J'exprime un témoignage psychologique à un moment dans le livre. Je me sens gilet jaune. C'est-à-dire, j'ai beau avoir fait beaucoup d'études, je suis dépassé. Je suis dépassé par l'IA, je suis dépassé par les agents. Michel Lévy-Provençal ne cesse de m'expliquer que je suis un vieux con et que parce que je ne progresse pas assez vite sur OpenCloud et sur les différents agents. Donc oui, aujourd'hui, c'est très difficile de ne pas être dépassé. Quand on a mon âge, et ce sentiment de devenir un gilet jaune, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu paumé, dépassé par la technologie, il est très fort pour ma génération. Alors, la jeune génération a d'autres angoisses, mais finalement, face à l'IA, tout le monde est un peu angoissé parce que les choses vont plus vite. Depuis la sortie de GPT 3.5 le 30 novembre 2022, la bascule, les choses vont plus vite qu'on l'imaginait.
Oui, alors il y a une bascule dans le livre, février 2026, sommet AI Impact à New Delhi. Moi, je pense, alors, évidemment, il y a une première bascule, enfin, il y a novembre 2022, sortie de ChatGPT.
Non, mais c'est la première fois que les spécialistes de l'IA admettent que la super IA est proche.
D'accord, c'est ça.
Et qu'on bascule et que le dépassement cognitif de l'espèce humaine est là. Avant, on imaginait la supéria plutôt plus long terme, et on voit même des gens comme Demis Hassabis qui envisageaient la supéria à relativement long terme. Maintenant, ils la voient assez proche. Donc, c'est vrai que en ce premier semestre 2026, il y a eu un basculement de l'opinion et des spécialistes de l'IA. Mais tout le monde ressent cette accélération actuelle, mais elle est entérinée par les gens qui construisent les modèles d'IA.
Alors, je sais qu'il y avait le précédent livre là qui a été écrit avec Olivier Babot, oui, c'était Ne faites plus d'études. Voilà, je sais plus, c'était N'allez plus à l'école, donc c'est Ne faites plus d'études. Justement, c'est ça qui peut être un peu angoissant, Alexandre, parce que auparavant on avait un apprentissage, voilà, qui nous donnait des bases en mathématiques, en français, enfin en tout un tas de matières selon sa filière, en médecine bien entendu comme Laurent. Et puis bon, voilà, on continue à se former, on avait cet apprentissage continu. Là, on est un apprentissage tout le temps, mais même à un moment, je quand même vous dites, on va avoir plusieurs vies.
Mais la réalité, c'est qu'on a menti à ma génération. On leur a dit que le diplôme, la formation allaient pouvoir les protéger, leur permettre de travailler pendant les 1000 prochaines années. La réalité, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a jamais eu autant de diplômés et que le chômage chez les jeunes est en train d'augmenter. La réalité, c'est que les diplômes, on apprend des connaissances qui peuvent être automatisées par l'IA, qui sont obsolètes avant même l'obtention du diplôme. Et aujourd'hui, faire un diplôme de 5, 8, 10 ans, même pour les médecins, voire plus si on devient chirurgien, n'a aucun sens. L'OCDE l'a très bien dit. Aujourd'hui, une compétence tient 2 ans avant d'être disruptée. Alors qu'en 1987, c'était 30 ans. Donc, il y a un vrai changement à faire sur l'université. Et pour le moment, la classe politique n'y a pas réfléchi une seule seconde à faire en sorte que l'université nous prépare au métier de demain, nous prépare à la complémentarité avec l'intelligence artificielle.
Ça rejoint tout à fait ce que m'a dit le directeur de l'IPITA il y a quelques semaines. Il me disait, c'est la première fois que j'ai une telle fracture entre... Alors, c'est une école avec une prépa intégrée. Donc, les plus jeunes rentrent à 18 ans. Ils sortent à 23. Il me dit, c'est la première fois que j'ai une vraie fracture entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Il dit c'est complètement étonnant, et donc ça rejoint un peu.
Ceux qui sortent, ils ont appris à coder, et ceux qui rentrent aujourd'hui, ils n'apprennent plus à coder.
Oui. C'est, d'ailleurs, Arthur Mensch, qui était entendu hier par les députés,
il a exprimé ses craintes. Hein,
oui, beaucoup de craintes.
Pour la première fois.
Et il disait, vous savez, même chez nous, les gens ne codent plus, ils sont orchestrateurs d'agents, ces agents qui codent, donc il faut apprendre à faire ça. Donc, individuellement, ils gagnent beaucoup de temps. Après, en équipe, ben voilà, il faut... Mais il a exprimé vraiment ses craintes sur l'emploi. C'est vrai que c'est ce qui est dit à un moment, ça va même étudier 15 ans pour un métier qui peut être disloqué par l'IA. Donc, comment il faut repenser l'école, alors ?
Il faut des cursus plus courts. Mm-hmm. Par exemple, pour être médecin généraliste en France, maintenant, c'est 10 ans d'études. Oui. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, alors même que l'IA est supérieure au médecin. Et on voit que les études ne sont pas adaptées au fait qu'en médecine, intelligence artificielle plus médecin, c'est moins bien qu'intelligence artificielle sans médecin pour faire un diagnostic. Ça prouve bien que les médecins ne sont pas complémentaires de l'IA, ils sont anti-complémentaires.
Et encore moins bon que médecin plus médecin.
Oui, ça c'est sûr que l'IA est meilleur que les médecins, mais c'est très troublant que l'IA plus médecin ce soit moins bien que l'IA sans médecin. Mm-hmm. Ça prouve que les études ne fonctionnent pas, qu'elles doivent être reconstruites. Mais c'est très difficile de changer les études. Une fois que c'est parti, de changer les cursus, de changer les méthodes est extrêmement compliqué. Puis l'école n'est pas adaptée à supporter un choc technologique aussi rapide, un tsunami aussi rapide. On change les programmes très lentement à l'université, on change les méthodes très lentement, ça prend des années, des décennies. Et là, on se retrouve en quelques années à avoir une obsolescence des méthodes et puis une obsolescence des métiers auxquels l'université préparait.
Donc c'est ça, hein, ce livre, c'est de dire vivre 1000 ans, donc la mort, enfin on recule au maximum la mort, mais pour faire quoi ? Et c'est là où on interroge les jeunes en disant, bah oui, moi je suis d'accord, vivre... Si je peux vivre en pleine forme jusqu'à 100 ans, voire plus, super, mais pour faire quoi ? C'est ça la grande inquiétude.
Bien sûr, et puis il y a un autre risque, non seulement de déclassement face à l'intelligence artificielle, mais aussi de déclassement face aux humains qui seront sélectionnés et neuro-augmentés. Parce que la sélection embryonnaire, c'est pas de la science-fiction. Mm-hmm. Ça existe depuis 2024 avec Heliospec Genomics, qui était la première entreprise sur le marché, qui propose pour à peu près $50,000 de sélectionner le meilleur embryon avec le meilleur QI, la meilleure forme physique, enlever toutes les maladies génétiques. Et ça a commencé d'ailleurs.
Bienvenue à Gattaca. Hein,
mais c'est exactement.
On y est, c'est parfaitement autorisé aux États-Unis.
Ouais. D'ailleurs, la revue Science avait démontré que 38% des Américains se disaient prêts à faire de la sélection embryonnaire sur leurs propres enfants.
Pour qu'ils soient plus intelligents.
Mais ça veut dire que nos dirigeants, ils n'ont pas pris la mesure de tout cela, même s'ils sont alertés.
Voilà, les dirigeants ne viennent pas de la tech, ils ne s'intéressent pas à la tech, ils n'utilisent pas la tech. Une grosse partie des dirigeants politiques, il y a quelques exceptions heureuses, hein, mais elles sont rares, n'utilisent pas ChatGPT, n'utilisent pas Claude, ne connaissent pas les outils, ils ne s'intéressent pas beaucoup à l'IT, pas beaucoup à l'informatique. Donc ils n'ont pas vu arriver les enjeux. Et puis, il faut dire la vérité, les politiciens... raisonnent plus sur leur réélection que sur la France de 2050. Mmh. C'est la raison pour laquelle on a pris tant de retard sur autant de chantiers, y compris un chantier qui intéresse beaucoup les jeunes, qui est le chantier de la retraite et le chantier de la réforme de l'enseignement.
Ah oui, et puis même nous, hein, je relisais le dans les médias là, le rapport du député Lalonque là sur le France Télé. On se rend compte qu'il n'y a pas du tout, on se projette pas, on est juste sur là aujourd'hui telle chaîne doit racheter telle chaîne. Enfin, on est dans des petites pansements peut-être. En plus, il y a beaucoup d'idéologies, mais derrière, on n'est pas en train de réfléchir à justement comment les jeunes s'informent aujourd'hui, comment et là, il y a cette réflexion qui n'existe pas. Du coup, comment on réagit ? Parce que c'est bien, parce que quand on suit toutes ces actualités, on retrouve dans le livre plein de choses dont on parle assez régulièrement. C'est le Alexander Wang, donc le patron recruté par Mark Zuckerberg, qui disait, moi je veux pas d'enfants, parce que...
Non, je veux pas d'enfants, j'attends que les technologies d'augmentation soient au point.
Alexander Wang qui a vendu Skyline à Mark Zuckerberg pour 14,3 milliards de dollars, qui est le plus jeune autodidacte de l'histoire de l'humanité, milliardaire. Il a déclaré effectivement l'été dernier qu'il ne souhaitait pas avoir d'enfants pour le moment, tant que les technologies de neuro-augmentation, donc qui permettent d'augmenter les capacités cérébrales des enfants, ne soient pas opérationnelles. C'est grâce à l'entreprise de Neuralink, en fait, on mettra des puces directement. Et du coup, ils pensent qu'aujourd'hui, faire des enfants, c'est les vouer à les envoyer directement au revenu universel, car ils seront non complémentaires de l'intelligence artificielle. Oui. C'est pourquoi ils préconisent d'attendre que ces technologies soient au point, avec la sélection embryonnaire, pour faire des enfants.
Et ça, du coup, ça vous interpelle, Alexandre ?
Ah bah, ça m'interpelle totalement. Ouais. Ma génération doit se poser, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la question, faut-il faire des enfants aujourd'hui, leur donner le maximum d'amour, d'éducation, de cadre, ou alors leur donner le meilleur score ? Ce qui pose des problèmes moraux absolus sur ma génération.
Il faut repenser complètement le sens collectif aussi, Laurent ?
Bien sûr. Ouais. Bah, comme le dit Geoffrey Hinton, le prix Nobel de physique pour avoir inventé les réseaux de neurones profonds, nous ne sommes plus l'espèce la plus intelligente sur Terre. Nous sommes la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre. C'est un changement civilisationnel, mais aussi un changement anthropologique. Donc là, on a des questions politiques, civilisationnelles et puis anthropologiques absolument profondes. Et le sens de l'humanité va être bouleversé. D'ailleurs, derrière, il y a un autre débat que vous connaissez bien, c'est qu'aux États-Unis, il y a des transhumanismes, il y a aussi des post-humanistes, notamment les dirigeants de Google pensent que l'espèce humaine a perdu la bataille et qu'il va falloir laisser la place à l'intelligence artificielle parce que le cerveau est complètement has-been. Et ça, c'est bouleversant. Hein. D'ailleurs, le biographe de Isaacson, le biographe d'Elon Musk, a très bien décrit comment les dirigeants de Google et Musk se sont fâchés là-dessus. Parce qu'à l'époque, Musk voulait sauver le cerveau humain. C'est pour ça qu'il a créé Neuralink pour augmenter le cerveau humain. Alors que les dirigeants de Google lui disaient, mais non, c'est foutu. La bataille entre l'IA et le cerveau humain est terminée. Il faut qu'on laisse la place. C'est-à-dire que finalement, dans la vision de beaucoup de gens dans la Silicon Valley, l'IA n'est pas un outil. C'est notre successeur.
Et quand on entend ces discours sur l'homme augmenté, voilà. Alors aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on entend ça justement. Ah oui, l'IA, ça va permettre d'augmenter nos employés. C'est un discours très très court-termiste, quoi.
C'est un poncif mensonger. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui vont pas être augmentés par l'IA. Et comme le Wall Street Journal le disait très bien il y a quelques jours, on voit que l'IA augmente les écarts entre les gens les plus doués, les plus intelligents et puis les joueurs qui ont moins de facilité. C'est-à-dire en fait, l'IA est une machine à augmenter les bons et une machine à envoyer les pauvres, les mauvais dans la poussière. Donc l'IA n'est pas une machine qui réduit les inégalités, contrairement à ce qu'on a pu espérer. C'est une machine qui augmente les inégalités entre ceux qui maîtrisent les agents, qui savent orchestrer les agents, et puis ceux qui vont pas savoir. Sachant que le principal métier au 21e siècle, ça va devenir l'orchestration des intelligences artificielles et des agents, mais ça va être un métier très compliqué.
Oui, compliqué. Et puis même dans les entreprises, hein, je parlais l'autre jour, je me disais, tiens, dans une banque comme BNP Paribas, il y a 200 000 personnes. S'ils se mettent tous à avoir ne serait-ce que 10 agents par personne, ça fait 2 millions de personnes à gérer. Et puis, comment ça se passe quand la personne s'en va avec ses agents?
Dans une banque que je ne citerai pas, récemment, on vient d'interdire l'utilisation de l'IA pour faire les comptes rendus d'une réunion. Parce que les syndicats ont peur que ça supprime beaucoup d'emplois, parce qu'une bonne partie des gens dans les banques, ils passent leur journée à faire des réunions et à faire des comptes rendus de réunions. L'IA fait ça en quelques secondes. Donc ce serait un drame en termes d'emploi si on autorisait ce genre de technologie dans les banques.
Alexandre, qu'est-ce qui fait qu'un jeune doit lire ce livre ?
Si un jeune de ma génération veut comprendre le monde qui arrive, qui est à la fois fascinant, car il va y avoir...
Et qui est bien expliqué. Je trouve que les deux premiers chapitres, là, on est sur justement toute la partie santé, tout ça nous dit, voilà, on va justement rajeunir nos cellules. C'est assez passionnant, ça.
Mais oui, mais il va y avoir plein d'opportunités. On va vivre plus longtemps, meilleure santé. On va combattre le cancer. Donc, en cela, c'est un progrès absolument inouï. Et c'est un futur très réjouissant, mais qui est également, et Laurent le rappelait, extrêmement vertigineux. Et il y a plein de questions politiques qui vont se poser. On va avoir également un chômage qui va arriver dans certains secteurs, certaines branches. Je ne crois pas en la mort du travail, mais je crois qu'effectivement, comme le patron de Ford, ça va être très compliqué pour les cols blancs qui prédit que 50% des cols blancs vont disparaître à moyen terme. Ou encore Bill Gates qui, jusqu'à présent, pensait que l'humain va aller pouvoir travailler pour les 1000 prochaines années et qui aujourd'hui est revenu sur ses propos en disant que peut-être que le travail est une relique d'un ancien monde.
Deuxième partie du livre, au tout début, vivre plusieurs vies quand l'intelligence devient gratuite. Ça, il faut m'expliquer un peu.
À partir du moment où on vit plus longtemps, si la Silicon Valley a raison et réussit à nous rendre quasi immortels, on va faire plusieurs choses. On va avoir une vie qui sera non plus une voie de chemin de fer, mais un archipel. On pourra avoir plusieurs vies, plusieurs amours, plusieurs chemins de vie. Et d'ailleurs, dans le livre, Alexandre s'inquiète de savoir s'il va pouvoir aimer la même personne pendant 1000 ans, s'il va pouvoir aimer le même corps d'un point de vue sexuel, d'un point de vue charnel pendant 1000 ans, et il n'en est pas du tout persuadé.
Il n'y a pas besoin d'attendre 1000 ans pour avoir cette réponse. Lorsque vous regardez le taux de divorce en France, sur 10 mariages, vous avez 7 divorces, donc mettez ça sur sur Milan, il y a assez peu de chances que l'amour passionnel puisse durer Milan. En revanche, l'amour qu'on peut porter à ses enfants, à ses frères et sœurs, oui, celui-ci peut durer Milan, bien sûr.
Ça veut dire, là, il faut qu'on ait des chefs d'entreprise qui parcourent ce livre, voilà, qui se disent, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'idées. Comme je disais au début, voilà, toute la partie sur la santé, enfin, tout le livre est passionnant, mais toute cette partie-là sur la santé, on se dit, ah, mais tiens, on va y arriver. Et puis derrière, ça nous pousse à réfléchir.
Ils vont devoir se poser des questions. Il faut qu'ils évitent la démoralisation cognitive de leurs salariés, parce qu'il y a des salariés qui craquent. Ils se disent, mais ce que je fais en 3 jours d'habitude, Claude Cowork le fait en 2 minutes et qui déprime. Et si les patrons ne prennent pas conscience de ces bouleversements et de la dimension psychologique, ils risquent de déstabiliser leurs entreprises avec plein de gens complètement découragés qui vont pas se former, qui vont pas suivre derrière la technologie. Mais ça va pas être simple, parce que vous le savez bien, la technologie change tellement vite que beaucoup de salariés,
c'est ça qui est frappant,
beaucoup de salariés se sentent totalement dépassés. Il y a encore un an, on se servait de ChatGPT et de Claude sous forme de chatbot en lui posant des questions et il répondait. Maintenant, l'enjeu, c'est les agents. Et les agents,
on les lance
beaucoup,
le soir et on
c'est
récupère.
Beaucoup, beaucoup plus compliqué que le simple chatbot.
L'IA menace les chercheurs d'implosion. Alors c'est vrai qu'on l'entend. Moi j'ai vu des chercheurs à Normal qui m'ont dit, mais moi il y a des choses, je les faisais en 15 jours, aujourd'hui c'est fait en quelques heures. On voit que même eux sont
le modèle de recherche publique à la française, avec des chercheurs sous-payés, sans moyens, qui doivent attendre des mois, des années pour avoir des nouveaux matériels, ça va pas le faire. Quand vous pensez que à l'INRIA il y a encore des chercheurs, des bons chercheurs, ceux qui ne sont pas partis chez les géants du numérique et qui sont payés au lance-pierre, avec des gens qui sont payés moins de 4000 euros par mois quand ils rentrent à l'INRIA en intelligence artificielle, les chercheurs en intelligence artificielle. Vous dites que vraiment on va dans le mur. Vous avez vu que Mark Zuckerberg donne maintenant des salaires en centaines de millions de dollars aux petits génies de l'orchestration des intelligences artificielles. Et l'INRIA paie ses chercheurs en intelligence artificielle moins cher qu'une femme de ménage à l'heure de travail. Ça n'est pas possible. Donc la recherche n'est pas adaptée à ce tsunami technologique, et là-dessus, l'État a vraiment tort de laisser pourrir la recherche publique au lieu de la moderniser et de changer, bien évidemment, la grille salariale des chercheurs qui sont en France totalement maltraités par rapport à ce que on leur donne en Californie.
Alexandre, justement, comment on peut sauver l'humain justement quand on est jeune, comment on se projette
déjà avoir une classe politique qui commence à s'interroger, est-ce qu'il faut autoriser la sélection embryonnaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement pouvoir être complémentaire de l'intelligence artificielle, car ça va être le véritable enjeu du 21e siècle pour ma génération. Comment être complémentaire de l'intelligence artificielle, comment ne pas finir au revenu universel, comment avoir une place professionnelle face aussi aux générations qui vont être augmentées et sélectionnées. Ça, c'est la vraie question, il me semble, pour ma génération.
Messieurs, je vous remercie. Laurent Alexandre, Alexandre Tsikopoulos, Vivre Milan. Je vous le conseille, hein, vraiment. Ça se lit. En plus, ça se parcourt assez vite, il faut le dire. Enfin voilà, quand on est passionné de ces technos, on lit, on tourne les pages à la vitesse d'une série Netflix. Hein, vous voyez. et je trouve que voilà, il y a toute la partie vivre Milan. Comment on va travailler pour se rajeunir nos cellules. Et puis toute cette partie qui interroge justement sur l'avenir du travail, l'avenir de notre société. Donc c'est vraiment merci de nous avoir nous faire part de vos réflexions à tous les deux. On peut continuer bien entendu à suivre vos échanges sur les réseaux sociaux. Voilà, donc aux éditions, je le rappelle, Bûcher Chastel, en vente à partir du 14 mai. Hein. Certainement.
D'ailleurs demain.
C'est vrai. c'est demain. J'avais l'impression qu'on était déjà très loin de tout ça. Non, c'est demain. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, puisque demain soir, on sera en rediffusion. On prend quelques longs week-ends. Merci de nous avoir suivis. Et puis, bien entendu, retrouvez-nous sur les meilleures plateformes, les YouTube, les podcasts, les replays. Excellente soirée sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.